décryptualité. Le podcast qui décrypte l'actualité des libertés numériques. Semaine 20, salut Manu.
Salut Nico.
Salut Nolwenn.
Salut Luc.
Eh bien, sommaire.
Alors c'est un sommaire un peu embêté, avec beaucoup d'articles qui viennent du même site.
Oh bah ça c'est pas grave, on fera de la pub.
Allons-y.
La Tribune. Open source quand Internet révolutionne le partage par la rédaction.
Donc ça parle de partage donc au niveau philosophique. Un article qui est pas trop mal, surtout sur un site qui parle surtout d'économie d'habitude. Donc là ils sont un petit peu ouverts pour parler de sujets qui nous intéressent.
Développé.com. Le gouvernement sud-coréen veut migrer vers Linux à la fin du support de Windows 7 par Michael Guillou.
Alors c'est un gros sujet parce que il se trouve le gouvernement sud-coréen était bloqué avec IE 6, Internet Explorer 6 depuis des années. Notamment si vous êtes sud-coréen, vous deviez utiliser Internet Explorer 6, il semblerait, pour remplir vos impôts.
C'est légal avec la Convention de Genève, tout ça ?
La Convention de Megève dit que non, mais on est embêté. Là, en tout cas, ils vont essayer de profiter de la fin du support de Windows 7 pour pousser à d'autres systèmes.
Il paraît qu'il y avait des Sud-Coréens qui partaient au Nord parce que c'était trop abominable.
C'était vraiment affreux.
Non.
Donc, on espère que c'est pour de vrai qu'ils vont passer à potentiellement Linux. Il est aussi possible qu'ils nous fassent une sorte de munichoise, c'est-à-dire de dire on va passer à un autre système d'exploitation, faites-nous des rabais pour qu'on reste avec vous. On va voir.
Public Sénat. Les propositions du Sénat pour adapter la France au changement climatique par Ariel Guez.
Alors, le changement climatique et le logiciel libre, oui, il y a un rapport. Ça passe par les données libres, l'open data. Et là, il est proposé par les sénateurs que les données qui viennent de Météo France soient libérées et accessibles à tous les citoyens.
Mais les données n'étaient pas déjà plus ou moins...
Elles sont accessibles, mais je ne crois pas qu'elles soient accessibles gratuitement.
Ouais,
je
c'est pense un que ça vieux, fait une grosse différence. Vieux truc. Depuis des années, Météo France dit « filez-nous de la thune parce que ces données, elles ont de la valeur ». Et des gens qui disent « mais on vous paye déjà avec les impôts ». Ils disent bah, « c'est pas suffisant », etc. Et donc c'est un truc interminable. Et donc voilà, si ça bouge, c'est bien.
Développé.com.
Encore.
France, quels sont les logiciels libres que l'État recommande en 2019 par Olivier Famien.
Pas un nouveau sujet, c'est
ça
le
fait troisième fois qu'on en parle.
Exactement, mais bon, bah, ça veut dire que le sujet est important et qu'il continue à être discuté dans les médias, donc on peut apprécier cela.
Développé.com.
Encore.
Oh, quelle surprise.
Pourquoi Linux n'a-t-il pas de succès sur desktop ? Entretien avec Mark Shuttleworth par Michael Guillou.
Alors c'est un sujet à troll, et ce gars, Mark Shuttleworth, est un troller, même s'il fait aussi Ubuntu, ce qui est pas mal. Et il se trouve que là, il se plaint qu'il y a de la fragmentation, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs différents, mais que lui-même a largement contribué à cette fragmentation. Donc il se plaint que tout le monde ne le suive pas, il veut que tout le monde s'unifie, tout le monde suive la même chose.
C'est un ouin-ouin, quoi.
C'est un classique, hein. c'est un grand classique.
Comme j'ai vu que tout le monde était divisé, j'ai créé un projet supplémentaire pour que tout le monde s'unisse derrière moi.
Nouvelle République. Poitiers, Loïc Soulas, coworker de Cobalt, spécialiste en open source, un article de la rédaction.
Donc ça parle de militantisme au niveau de Poitiers, c'est un peu de là-bas que je viens, donc ça me plaît bien.
Tout vous explique.
Et effectivement, ils discutent notamment d'un tiers-lieu Cobalt, où ils parlent un petit peu de se spécialiser dans le libre et de monter des choses autour de ça.
Développé.com.
Toujours.
L'April se mobilise pour donner la priorité au logiciel libre dans l'éducation, un article de Michael Guillou.
Alors ça reparle du Sénat. Parce qu'il est en train d'être discuté des choses qui parlent de l'enseignement et de la priorité au logiciel libre dans le cadre de l'enseignement. Donc l'April se mobilise et on essaie de mobiliser plein de gens pour contacter les sénateurs et qu'ils fassent avancer le sujet.
Donc allez sur le site de l'April pour voir ce que vous pouvez faire. N'importe qui peut intervenir. Si le sujet vous intéresse, hein, vous pouvez obtenir là-bas des contacts, aller démarcher des gens, faire du bruit. Et plus on est nombreux, mieux c'est. Donc le sujet du jour, ça ne sera pas l'événement qui a marqué cette journée, on est lundi quand on enregistre, qui est Huawei, donc un constructeur de téléphone chinois qui a perdu les droits d'utiliser les Google Services. On se garde ça sous le coude pour la semaine prochaine, pour laisser décanter un petit peu. Et aujourd'hui, on va parler de révolte.
La révolte des développeurs, hein.
Alors, ça se voit pas, mais je vais faire toute l'émission avec le point gauche au-dessus de la tête. Donc, les révoltes des développeurs. Ouais.
Alors, ça comprend plutôt des entreprises, et notamment les GAFA. Et c'est intéressant, les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, et on a tendance à rajouter le M de Microsoft, pour dire GAFAM.
Oui.
Et donc, ce sont les grosses compagnies... qui ont fonctionné en grande partie Internet. Et il se trouve que dans ces grosses compagnies, il y a plein d'informaticiens et que, on le voit encore aujourd'hui, encore récemment, ces informaticiens, eh bien, ils ne se laissent pas juste mener par le bout du nez, ils n'acceptent pas de suivre tel quel tous les ordres qui leur sont transmis.
Ils ont enfin compris que sans eux, personne ne tourne.
Il y a de ça. Ce sont un petit peu les travailleurs de la mine, mais... tellement mieux payé qu'à d'autres époques. Et il y a eu des révoltes, on a constaté ça, notamment à Facebook, où on se rend compte que les recrutements ont beaucoup baissé et que la désirabilité d'aller travailler à Facebook s'est complètement écroulée.
Bah, ça a été surtout lié à Cambridge Analytica, hein, qui a pété il y a déjà pas loin d'un an, je crois.
Deux ans.
Et ça a été un vrai scandale et personne ne s'attendait à ça. Et du coup, tous les développeurs ont pris conscience de leur boulot quotidien, à quoi ça servait, à espionner les gens et que les données n'étaient pas contrôlées.
À influencer.
Ou à influencer, parce que ça a vraiment eu des impacts même au niveau politique. Du coup, bah, les développeurs se sont dit, bah, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce qu'on bosse dans ces boîtes-là? Pourquoi est-ce qu'on a fait ces monstre-là. Et autant la direction, bah, elle fait ce qu'elle veut, elle fait tourner son produit comme elle l'entend, mais les développeurs, du coup, disent, bah, on n'est plus d'accord avec ça et on arrête de bosser pour ces boîtes-là.
Alors la direction, elle est aussi très critique, hein, puisque je rappelle qu'il y a quand même deux très hauts cadres de Facebook.
Un des anciens fondateurs aussi.
Oui, alors ça, c'est venu après, mais déjà, il y a plus d'un an, il y a deux cadres, dont un qui était directeur général, hein, qui ont claqué la porte et qui ont dit, Facebook est une horreur absolue, on ne sait pas ce que ça fait au cerveau des gens, on a tout optimisé pour les rendre complètement dépendants au fait de recevoir des likes et des choses comme ça, et qui tout est fait pour qu'ils reviennent le plus souvent possible.
Avec des conséquences parfois même sur l'humeur qu'on a dans la journée. Ça peut nous rendre dépressifs.
Ah, oui. Et très récemment, là, il y a une semaine ou deux, il y a un des fondateurs de Facebook qui a dit que Mark Zuckerberg avait trop de pouvoir, que donc il fallait éclater Facebook, puisque Facebook, il y a Facebook, mais il y a également d'autres services. Donc, il y a quoi? Il y a Instagram.
Il y a Instagram, WhatsApp, et puis il y a plein d'autres services autour de publicité ou autres qu'ils ont rachetés. Et donc, allez voir la page Wikipédia, il y a une litanie de boîtes rachetées par Facebook.
Et il dit, bah, il est trop gros, et Zuckerberg contrôle tout ça, et il a trop de pouvoir.
Donc là, dans les grosses universités américaines, l'Ivy League, la ligue de, je ne sais plus ce que c'est, la plante d'ailleurs en français, sont vraiment les gens les plus supposément intelligents. D'habitude, à 85%, ils étaient pour aller travailler dans une entreprise comme Facebook, et à Facebook. Et là, c'est descendu jusqu'à 35% dans certains lieux. Donc là, le recrutement est plus difficile, et quand ils vont recruter, ils ne vont pas forcément avoir les gens les plus brillants tout de suite.
Plus brillants et aussi les plus riches, hein, puisqu'il va être quand même très très friqué. Il y a maintenant des affaires de corruption pour rentrer dans les grandes universités américaines.
Alors va savoir, hein, il y a peut-être un lien.
Voilà. Mais alors Facebook, c'était un festival, hein, parce que ces dernières semaines, je crois qu'ils avaient réussi le performance d'avoir deux scandales dans la même journée.
Ouais, mais c'est en permanence, c'est tous les jours, il y en a un qui sort, ça a été un médical.
Ouais, mais c'était dans les trucs récents, là, dans les dernières semaines, ça a été les données de 500 millions de personnes à poil sur Internet.
Les mots de passe dans la nature, le mot de passe qui était demandé pour accéder à ses comptes mail, c'était une véritable...
Voilà, des trucs où on s'aperçoit qu'ils ont donné les données à n'importe qui et qu'il y a des tas de boîtes qui ont récupéré des tonnes et des tonnes de données de millions, de centaines de millions de personnes et qui les stockent n'importe comment sur Internet et c'est juste n'importe quoi.
Oui, mais enfin, vous êtes méchant, mais n'oubliez pas, à chaque fois, Mark Zuckerberg, il vient s'excuser. Et ça, franchement, on ne peut pas lui retirer. Il s'excuse à chaque fois.
Je pense que c'est ça qu'il a dit à Macron quand il est passé.
Bah, il s'excuse à chaque fois qu'il n'ait pas les moyens de mettre des billets dans la sécurité, c'est tout.
Oui, et en fait, il s'est excusé assez récemment. Il y a eu des pages de toutes les excuses qu'il a dû sortir au fur et à mesure des semaines. Et il semblerait que c'est assez, assez conséquent. Il y a des gens qui ont codé un excusotron pour Mark Zuckerberg parce qu'il est tout le temps en train de dire « Désolé, on ne le refera plus ».
On l'a même vu pour acheter des pleines pages dans les journaux, hein, en Angleterre et aux États-Unis pour faire des mea culpa de Facebook. « On ne le fera plus, c'est vrai, on était désolé. »
Notre priorité, ça va être votre vie privée. Et ça, il l'avait dit il y a encore un an. Et le cas patatras. Régulièrement.
Mais ça a toujours été leur priorité.
C'est privé, c'est à eux.
Voilà.
Leur vie privatisée, donc c'est moche. Ouais. Et donc là maintenant, les techniciens qui sont au service de cette entreprise, eh bien, ils se rebellent, c'est-à-dire par leurs pieds. Ils n'utilisent pas leurs pieds pour aller
voilà. À Facebook. Il y a ceux qui sont éventuellement partis de Facebook, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas, c'est ça dont tu parles. On ne sait pas où ils vont. Je veux dire, s'ils vont bosser pour faire des missiles ou aller bosser, je ne sais pas moi, pour Monsanto, enfin ils ont été rachetés, ils ne s'appellent plus Monsanto maintenant.
Non, alors ils s'appellent encore Monsanto, mais ils sont sous l'étendard Bayer.
Tu peux imaginer qu'ils soient allés faire plein d'autres trucs dégueulasses, mais dans une boîte qui a moins de casseroles aux fesses, enfin de marmites maintenant.
Moins visible en tout cas, voilà. C'est moins la pointe de l'actualité.
Ouais.
C'est tout à fait possible.
Donc ça ne veut pas dire qu'ils se rebellent, ça veut peut-être juste dire que la réputation de Facebook est en berne.
Tout à fait possible, mais il y a d'autres contextes qui nous montrent que ça ne fonctionne pas que comme ça. La morale, l'éthique joue quand même. On le voit à Google.
C'est un peu moins visible. Ça finit pas dans la presse comme en ce moment.
Il y en a beaucoup, pas autant.
Ou pas autant, mais il y en a beaucoup qui commencent à se poser des questions sur l'usage des technologies faites par Google. Si on les a vus, par exemple, entraîner leurs drones de combat avec les CAPTCHA, du coup, vous appreniez au fait aux drones à cibler les personnes sur les territoires de guerre. Bah, ils ont commencé à se poser des questions. Il y a eu aussi Boston Dynamics, qui est le gros fer de lance de Google.
Ils ont vendu, hein. Ils sont plus chez Google.
Voilà, mais en tout cas,
cas, faire des robots des qui robots aideraient au combat.
De guerre ou autre. Et donc, il y en a beaucoup qui ont commencé à se poser des questions et en disant à Google, bah, arrêtez vos conneries, là, vous êtes en train de mettre le doigt dans quelque chose qui est vraiment pas top. Et donc, si vous continuez dans ces directions-là, nous, on arrête de bosser pour ça.
Sachant qu'il y avait notamment un gros contrat qui était en train d'être ouvert par le département de la défense américaine, donc c'est des milliards, et Google s'était proposé de faire des data centers pour ce département, et les développeurs, bah, ils ont gueulé, et ils ont marché, et ils ont fait une petite manifestation pour dire non, nous on ne veut pas travailler pour le département de la défense pour tuer des gens. Donc ils ont forcé l'entreprise à reculer sur ce sujet-là, et il y a eu d'autres sujets tout aussi intéressants, sur notamment le harcèlement au travail, le harcèlement sexuel. Des développeurs se sont plaints du traitement qui avait été fait à certains des cadres, qui avaient été poussés dehors à coups de millions, et bien ça a fait un scandale interne assez conséquent, où ça fait bouger un petit peu les lignes, et aujourd'hui ils ont promis, alors...
Donc des gens poussés dehors, c'est-à-dire des hauts cadres qui avaient, là encore, des marmites aux fesses suite à des comportements de harcèlement, et plutôt que de les virer salement pour faute, on leur a dit, voilà, prends cette caisse de billets et va voir ailleurs si on y est.
Voilà, donc c'est pas très propre, mais ça a fait scandale, ça a fait gueuler. Il y a eu aussi tout un circuit pour essayer de contrôler l'intelligence artificielle qui avait été mis en place à Google, et qui a fait beaucoup jaser en interne. Les développeurs aussi se sont plaints des manques et des blocages qui n'étaient plus en place sur l'intelligence artificielle. Donc ça va assez loin à chaque fois. Google, on peut voir qu'il y a une culture d'entreprise qui, à l'origine, était très libertaire, était très anti-autorité, et qui est en train de changer. C'est-à-dire que la direction elle-même est peut-être plus fan, pour faire croître l'entreprise, d'aller suivre des contrats militaires, d'aller suivre des optiques un peu plus dirigistes.
Puis il y a des trucs dont on parlait il y a quelques semaines, avec les soupçons, voire flinguer les concurrents en jouant de leur position dominante pour ça. Ce qui n'est pas très éthique non plus. En tout cas, là-dessus, les employés de Google, ils n'ont pas grand-chose à dire, manifestement. Ça n'a pas l'air de les chagriner plus que ça.
On est encore au niveau des soupçons.
Ouais. Voilà. Mais Google a quand même aussi changé sa politique de recrutement là-dessus. Hein. C'est qu'avant, effectivement, ils essayaient de recruter les cadors au niveau technique et avec des vrais fers de lance. Et maintenant, bah, sont plus dans la stratégie commerciale. Donc, ils cherchent plus des moutons, des gens un peu plus modulables et malléables. Donc, forcément, les tests d'entrée, on s'est beaucoup chuté. C'est plus du tout les mêmes objectifs de visée lors du recrutement. Ça change aussi énormément la donne.
Tu peux être super fort techniquement et très intelligent et rester une raclure. Hein. Je veux dire, il y a aucun lien de cause à effet entre être intelligent et...
Là, ils visent vraiment des personnes capables d'être modelées à la volonté commerciale de l'entreprise et plus des personnes qui allaient porter des projets et de l'éthique.
Ça se voit peut-être un peu, notamment avec leur moteur de recherche qui, en Chine, est supposé faire de la censure. On ne peut pas chercher ce qu'on veut.
C'était aussi un des sujets de rébellion, d'ailleurs. Ouais.
Et Google était parti de la Chine à un moment donné, il y a quelques années, notamment sous la pression des développeurs, et ils avaient dit non, on ne veut pas accepter cette censure, et donc on sort du pays. Mais finalement, ils y sont retournés. Il n'y a pas très longtemps, il me semble. Et je ne sais pas à quel point ils ont accepté de se compromettre avec le gouvernement. Mais c'est un marché qui est gigantesque. Et refuser de rentrer sur des gros marchés, ce n'est pas facile pour les dirigeants.
Alors, est-ce qu'on pourrait oser prétendre qu'il y aurait une sorte d'esprit éthique chez les informaticiens ? On se rappelle de ce bouquin écrit il y a quelques années qui s'appelait « L'éthique hacker », donc qui faisait une sorte de parallèle avec l'éthique protestante de Max Weber. Est-ce que voilà, c'est du pur mythe ou quoi ?
Ouais, on a surtout l'avantage d'être dans un métier qui est plutôt bien payé. On a beaucoup d'opportunités. Donc, on peut effectivement mettre plus facilement en avant notre éthique si on sait que si on dit non à un projet, on n'aura pas trop de problèmes si on se fait virer à retrouver un boulot derrière. Donc ça permet d'être plus à l'aise, on n'a pas de problème financier non plus. Donc ouvrir notre gueule, c'est quand même plus facile que quand on est sur une chaîne à devoir être payé un SMIC pour vivre et nourrir sa famille.
Il y a peut-être un autre point à mettre en avant, c'est qu'on est très informé. On travaille dans la mer de l'information Internet et on est en contact avec tout ce qui circule aujourd'hui. Donc dire qu'on ne fait pas quelque chose parce qu'on n'était pas au courant, c'est plus difficile.
Oui, mais il y a plein d'informaticiens qui font des avions de chasse, des missiles, des bombes, des trucs comme ça, et ça les chagrine. Pas plus que ça, enfin je veux dire, tu vois.
Et il y en aura probablement encore toujours. Hein.
Bah, les psychopathes, ça existe.
Non, mais il y en a plein.
Ce sera toujours une couche de gris entre le blanc et le noir. À part de faire vraiment don de soi-même à 100% et de se sacrifier, tout ce qu'on a, on est tous en train de faire des formes de compromis et d'accepter qu'on va aider un peu jusqu'à un certain point. Et après, c'est juste une question de où est-ce qu'on met le curseur.
Et où est-ce qu'on met le chèque aussi à la fin. Il y en a beaucoup qui peuvent être achetés. C'est vrai que les milieux qui sont un peu moins éthiques, on va dire, généralement, on est bien mieux payé. Allez dans le bancaire ou dans l'armée, vous aurez beaucoup plus de salaire à 5 ou 6 chiffres que si vous êtes développeur dans une petite SS2L du coin. Quoi.
Alors, on pourrait même dire que l'éthique permet de diminuer les tarifs. Je connais des développeurs, et j'en fais partie, qui sont capables d'accepter un boulot. S'il est éthique, eh bien, je veux bien être moins payé que de faire un travail où je vais faire que du propriétaire toute la journée et faire des boulots pour des banques ou des choses comme ça. Ça s'est déjà fait pas mal, et il y a des gens qui mettaient ça même dans leur contrat de travail.
Ok, donc une petite poignée de gens qui ont une éthique, et bah, effectivement, une situation qui permet d'avoir les moyens de se la payer. Donc, les informaticiens ne sont pas des surhommes.
Ni des surfemmes.
Oui, exact. Et donc, bah, tant mieux mieux. Et donc nous, on va essayer de trouver...
On va essayer de trouver notre sens éthique et notre sens morale.
Oui, on va, voilà. Moi, j'en avais quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc j'essaie de la retrouver d'ici la semaine prochaine. Salut tout le monde.
Salut, à la semaine prochaine.